Bonjour à tous, à chacun, chacune dans ce début d'année. Alors bien sûr, les vœux, ben, je crois que Daniel l'a bien fait. Il a parlé d'abondance, d'être assasié. Hein. Je crois que je vais m'en resservir. La semaine dernière, j'ai été amené à vous parler. Ça résonne là, un peu. Bon, ça va s'arranger. Je vous ai parlé de ne pas boiter et de choisir qui on voulait servir. Je vais aborder cette semaine un autre thème. Enfin, on va parler de la parole d'une manière un petit peu particulière. En introduction, je note que c'est la deuxième aux Corinthiens, Paul s'étonne, il dit aux Corinthiens, je m'étonne que vous vous éloigniez si rapidement de la simplicité qui est en Jésus-Christ. Il le dit en ces termes, hein, c'est dans 2 Corinthiens 11, 13. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et c'est vrai que dans le fond, le message de l'Évangile, il est assez simple. Hein, on connaît tous ce verset de Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset dit beaucoup de choses. Dit que Dieu est amour, dit que l'homme était perdu, dit que Dieu veut le sauver et en donne le moyen. La Bible nous rappelle le plan merveilleux de Dieu pour l'homme, hein, dès la Genèse, pour l'homme et la femme qu'il a créé, qu'il a béni, qu'il a établi sur toute sa création, tout était merveilleux. Alors, je me disais, mais dans le fond, pourquoi nous avons entre les mains, préservé à travers les siècles, un livre qui fait, selon les versions, selon les éditions, entre 1300 et 1700 pages. Alors que Dieu, c'est simple. Il a créé, en plus, il nous a donné de quoi le voir. Ce qu'il a créé, c'est merveilleux. Pourquoi ça? Et en réfléchissant et en regardant de quoi sont constitués ces livres et ce qu'ils nous racontent, c'est pas terrible, mais c'est parce qu'en fait, si le plan de Dieu est simple, si son amour, il est évident, il se voit partout, le cœur de l'homme est un petit peu tordu. La Bible ne dit pas un petit peu, dit beaucoup d'ailleurs. Et on constate, ça me rappelait ça hier, on avait un enseignement sur le combat spirituel et nous regardions dans différents textes de l'Ancien Testament toutes les situations tordues. Combien le cœur de l'homme est tordu. L'Ecclésiaste nous rappelle que Dieu a fait les choses droites, mais que l'homme a compliqué beaucoup les choses. Alors, effectivement, une des raisons pour lesquelles ce livre est épais, pour certains rebutant à lire, c'est que Dieu nous aime, mais on a tellement embrouillé les affaires, on a tellement tapissé nos cœurs de mensonges, qu'il n'y a pas trop tous les textes qui sont là-dedans pour nous mettre les choses en face et pour détordre tout ce qui est détordu. Voilà un peu ce que ça m'a inspiré. Parce que il y a le salut, et Daniel le rappelait. Voilà, on invoque. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si on accepte Jésus, il y a le salut qui vient. Mais la question, c'est qu'il faudra le garder jusqu'au bout, si on veut au repas des noces. Et donc, il y a tout ce processus de décapage avec ses multiples facettes qui doivent être, c'est ce décapage qui doit être fait, et il y a besoin de se connaître. En fait, la Bible nous parle de qui est Dieu, de ce qu'il a fait, et de qui nous sommes, et de tous les trucs qui sont tordus, de tous les méandres qu'il y a dans notre cœur, non pas pour s'en repaître, mais pour s'en débarrasser. Et le titre de mon message ce matin, c'est la voie de la liberté. Vous savez, quand il y a eu quand l'Europe a été libérée à la fin de la Deuxième Guerre, le débarquement s'est fait en Normandie, et il y a eu toute une route qu'ont emprunté les libérateurs, cette coalition des différentes nations qui sont venues libérer notre nation en France, et puis toute l'Europe, et puis finalement bien d'autres continents, et ils sont rentrés. Et il y avait des bornes particulières qui ont été mises sur ces routes, et ça a été appelé la voie de la liberté, qui a commencé en Normandie, qui est passée par Paris, qui est allée jusqu'à Berlin finalement. La voie de la liberté. Eh bien, ce matin, je voudrais qu'on médite, parce que la voie de la liberté nous est donnée par Jésus lui-même, et je vous invite à prendre dans Jean 8, les versets 31-32. Il nous donne la voie de la liberté. Alors on va essayer de réfléchir là-dessus ce matin. Dans Jean 8, au verset 31 et 32, ce chapitre de Jean 8, c'est un chapitre qui, moi, me touche énormément. Vous savez, c'est le chapitre où il y a l'histoire de la femme adultère, dont je rappelle qu'elle seule est amenée, alors qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère, j'aime à rappeler ça. Ceux qui prétendaient être les garants de la loi étaient à côté de la plaque, hein, puisqu'il y avait eu un adultère, donc il y avait deux personnes, on n'en amène qu'une, on la condamne, etc., etc. Il y a une tension entre Jésus, j'y reviendrai, la parole vivante qui est là, et ses détracteurs qui prétendent connaître, être les propriétaires de la parole, il y a une tension qui ne va ne faire que croître tout au long de cet évangile de Jean. Et là, vous connaissez le récit, après que, devant cette demande de condamnation, Jésus trace des choses à terre, et puis il dit, écoutez, puisque vous connaissez si bien la loi, que le premier qui est sans péché, jette le premier la pierre. Ils s'en allèrent tous, en commençant par les plus anciens, qui savaient à peu près leur vie. Donc ils savaient, mais ils ne recevaient pas. Et ces versets 31-32 nous disent ceci. Certains ont cru après tout ça. Ils ont été touchés quand même. Et ils ont cru en Jésus. Alors Jésus leur dit, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et il poursuit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Non, si tu peux afficher. Je voudrais que ce verset... Bon, il faudrait qu'on l'ait en entier, ce serait bien. Parce que ce verset, je voudrais qu'il nous inspire tout au long de cette année. Ce chemin de la liberté. Si vous demeurez dans ma parole... Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors nous allons méditer là-dessus. Demeurez dans sa parole. Il y a l'idée que d'entendre la parole une fois ne suffit pas. Il est nécessaire d'y demeurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, plusieurs images qui me viennent un peu comme ça, vous savez, je ne suis pas très poète moi, mais je suis très pratique en même temps, parce que ça c'est du service... Quand on prend une serpillière, vous savez, les serpillières en toile qu'on pas été utilisées depuis longtemps, elles sont bien sèches. Si vous les mettez dans le seau comme ça, puis vous la ressortez tout de suite, elle n'est pas trempée. Il faut y appuyer dessus, hein, pour que ça pénètre. Il faut vraiment la plonger, hein, pour qu'elle s'imbibe, sinon elle ne prend pas vraiment l'eau, et puis en plus elle va servir à rien parce qu'elle ne va pas essuyer non plus. Quand on arrose une terre desséchée et qui n'a pas été ouverte, qui n'a pas été griffée, voire ouverte profondément, ça ne sert à rien de vider le seau d'eau d'un coup. Hein. Ça va couler, ça va ruisseler, mais ça va pas pénétrer, quoi. Par contre, si on arrose régulièrement en ouvrant le sol, je suis jardinier, hein, il y a un proverbe d'un jardinier qui dit « un binage vaut deux arrosages hein. ». Ce n'est pas la peine de toujours mettre de la flotte, il faut ouvrir le sol. Hein. On va voir, pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Le cœur est ouvert, ça ne sert à rien. Alors, l'affaire, vous savez, elle est sérieuse. On a besoin d'être rassasié de la parole, d'être rassasié, d'être imbibé. Parce que tant que ce n'est pas fait, on est imbibé d'autre chose. Cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. Elle est donnée par celui qui en est l'auteur. Hein, Pierre nous rappelle, toute parole a été... la parole prophétique, ce n'est pas une parole d'homme, mais inspirée par le Saint-Esprit, que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc c'est la parole qui est donnée par celui qui en est l'auteur, savoir Jésus-Christ, dont le nom, je le rappelle, dans l'Apocalypse 19, son nom est la parole de Dieu. Si elle pénètre dans le cœur, elle va sauver nos âmes en décapant le mensonge qui a empoisonné notre organisme. Et puis elle va guérir aussi les conséquences de ces mensonges qui nous ont abîmés. On ne croit pas sans conséquence à des mensonges. Vous savez que le premier mensonge que l'on a cru, c'est que Dieu, c'est celui qui a été donné en Éden. Dieu veut vous dominer, veut vous écraser. Qui est une grande source finalement d'idolâtrie. C'est pour ça que l'homme de créature divine est toujours créature divine, mais il devient un homme religieux qui va chercher à se protéger de la terreur des dieux. Parce qu'il va ramener l'homme, les dieux à son niveau, et puis alors il va rendre des cultes complètement idolâtres. Et ceci n'est pas sans conséquence dans nos vies. Donc si elle pénètre, elle va faire ce travail, la parole. Si elle pénètre dans nos cœurs ouverts, labourés. Si elle ne pénétrait pas, mais si elle ne pénètre pas, en fait, c'est que nous ne la recevons pas. Il faut être clair. C'est parce que nous ne voulons pas accepter celui qui la donne. C'est ce que Jésus va dire. Ce n'est pas ma parole que vous n'acceptez pas. C'est celui qui la donne que vous n'acceptez pas. Vous ne voulez pas de lui. Vous ne voulez pas de moi. Ne mentons pas à nous-mêmes. Jésus est clair aux pharisiens qui tentent de se justifier par leur héritage généalogique. Nous sommes des fils d'Abraham. Et par leur observance de la loi en tant qu'héritier de la promesse, Jésus déclare, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Un autre cas où la parole n'a pas pénétré, la parole est celui qui la porte, parce que la parole qui est la vérité, j'y reviendrai, elle est indissociable de celui qui la prononce. Or, celui qui la prononce, c'est le Dieu créateur et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, ne cherchons pas à jouer, les plus malins. Si nous ne recevons pas la parole, parce qu'elle ne nous plaît pas, elle nous dérange, c'est qu'en fait, celui qui la donne nous dérange. Parce que celui qui la donne, on ne va plus pouvoir faire ce qu'on voulait. Le jeune homme riche, il dissocie la parole de celui qui la donne et de celui qui appelle. Il dit, j'ai observé tous les commandements, il veut faire son petit truc carré. Et Jésus lui dit, donne-moi tout, il te manque une chose, donne-moi tout. Il s'en va tout triste. Il refuse, il ne reçoit pas, il a bien compris. Il a bien compris ce dont il s'agit. Demeurer, j'ai regardé ça, c'est vraiment le même terme, demeurer dans ma parole, c'est le même terme que pour demeurer dans une maison ou dans un lieu, l'idée de s'y installer, d'y habiter, ça fait partie de notre environnement quotidien. Il ne s'agit donc pas d'une affaire religieuse où l'on aurait à pratiquer de temps en temps en étant quitte de notre devoir religieux, mais d'une semence de vie qui impacte toute notre existence. On parlait de menu et d'être rassasié. Josué va être exhorté par l'Éternel à manger la parole de Dieu. Puisqu'il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche pour la méditer jour et nuit. Et là, il y a une promesse formidable. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir, pas pour faire des sermons et des discussions et enseigner ton prochain. Peut-être. Mais il est dit qu'il y en a peu qui enseignent parce qu'ils seront plus jugés plus sévèrement. Mais pour agir, reçois la parole pour agir. Non, comme tu voudras, ça c'est pas dans la parole, j'ai mis NDP, note du prédicateur. Non, mais pour distinguer, parce que je suis en train de vous parler de la parole de Dieu, il ne faut pas que je mélange la mienne. Pour agir, donc la parole, elle est faite pour agir. Donc elle agit elle-même, elle nous conduit à agir, mais d'une manière transformée. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Pas selon le verset qui me plaît, parce que ma dénomination, baptiste, pentecôtiste, luthéro-réformés, catholiques, je ne sais quoi, parce que dans cette domination-là, il y a deux, trois paroles qui nous plaisent bien. On a même pris des livres qui étaient pas... Bon, c'est pas grave, ils nous plaisent bien, alors on a bâti des choses là-dessus. Quelqu'un hier me posait la question, mais comment certaines dénominations ont pu dériver à ce point ? Nick me posait cette question-là. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Ça ne s'est pas fait en un jour. On a pris un petit verset qui nous plaisait bien, qui plaisait bien au conducteur, et puis alors, ils ont construit des maisons, des doctrines, des machins, etc. Et puis des enseignements, puis ils ont fait des adeptes, et puis ils ont fait des machins. Mais on va voir, ils n'ont pas fait des disciples. Et puis on se trompe. Je nous souhaite une bonne année. Je nous souhaite une bonne année. Mais écoutez, je vais vous dire quand même aussi la vérité, c'est le moment de se dire la vérité. Si peu de personnes connaissent la parole de Dieu. Si peu, sans doute même au milieu de nous, ont lu toute cette parole. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce sera mon vœu pour cette année. Et du coup, on n'a que des bouts. Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, il y a deux car c'est alors, donc c'est très insistant, là il y a une promesse qui est formidable, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, si aucun n'aurait pas compris. Il y a là une promesse formidable, sans ambiguïté, pourvu qu'on la prenne comme elle est donnée. C'est pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, pas selon ce qui me plaît et qui m'arrange, et je ne fais pas un bricolage où je prends quelques versets de la Bible, puis quelques versets de Confucius, puis quelques versets d'un autre sage hindou, pour faire ma vie. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas ce que nous prêchons, ce n'est pas ce que nous annonçons. Et vous voyez, si j'ai ce message, parce que je partageais, mes frères, il y a des choses, je me dis, Seigneur, quand on lit ta parole, du début jusqu'à la fin, et qu'on n'y enlève ni un iota, ni qu'on en ajoute, Seigneur, c'est clair, ça marche. Ça marche. Pourquoi tant de situations, y compris de chrétiens qui, je le crois, ont donné sincèrement leur vie au Seigneur, restent dans des situations inextricables, douloureuses, que ce soit dans des couples, que ce soit des situations vis-à-vis des enfants. Pourquoi ? Je dis, Seigneur, pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas tout ce qui est écrit. Parce qu'on ne reçoit pas tout. Et c'est vrai, mes frères ont prié pour moi, parce que c'est un fardeau qui pèse lourd, sans doute trop lourd, sans doute je prends des choses que je n'ai pas apportées. Mais quand même, nous ne sommes pas sauvés que pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés pour aller au festin, mais nous sommes sauvés pour être témoins. Nous sommes sauvés pour être témoins. Quel est notre témoignage ? Je vous assure, je me suis examiné. J'ai dit, Robert, mais tu te prends pour qui ? Parce que tu penses que le Seigneur t'a demandé de servir dans cette église d'une façon. Je me suis dit, mais ce qu'il y a là-dedans, j'aurais que ce soit bien, etc. Écoutez, je le mets devant vous. Peut-être le Seigneur me montrera. Il ne m'a pas montré ça. Il a montré que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, il nous a sauvés. Nous restions dans des choses inextricables. Quand je dis ça, ce n'est pas pour accuser, c'est pour vraiment exhorter, encourager, mais je veux le faire selon la vérité. La parole, elle est donnée par le Fils, de la part du Père, pour instruire, garder et protéger. De Jean 6, verset 68, nous dit, « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Juste avant, Des gens ont dit, ces paroles sont trop dures, qui peut les écouter ? Ils sont barrés. Jésus les a partenus. Pierre, ça ne devait pas être facile, parce que pour qu'il réponde ça, il dit, à qui rions-nous ? On aurait bien envie de se barrer aussi. Mais on sait que tu as les paroles de la vie éternelle, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Retenons ça. On ne comprend peut-être pas tout, peut-être vous ne comprenez pas tout, et moi non plus, quand on lit la parole de Dieu. Mais à qui irions-nous ? À qui allons-nous aller après avoir connu cela ? Proverbe 4, verset 1 à 6, écoutez ça. Proverbe 4, verset 1 à 6, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, il nous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement, J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Ce n'est pas des paroles enregistrées, c'est des paroles qui sortent de la bouche de celui qui nous a créés et qui nous aime. Et c'est des paroles d'amour, même quand elles paraissent dures par moments. « Ne l'abandonne pas. » Et elle te gardera. N'abandonnons pas la parole, elle nous gardera. Si vous demeurez dans ma parole, si vous gardez ma parole vous gardera, parce que je suis la parole vivante. Tous ces textes soulignent par contre la persévérance, la permanence de se nourrir pour marcher selon la volonté de Dieu qui veut notre bien. Être rassasié, ce n'est pas se baffrer. Mon épouse qui est puéricultrice et qui s'intéresse beaucoup à l'alimentation m'a expliqué que c'est important de mâcher beaucoup parce que la satiété vient plus tôt et ça évite de grossir. Vous voyez ? On n'est pas appelé à de l'obésité spirituelle en connaissant des piles de versets qu'on se plaît d'ailleurs surtout enseigner aux autres pour leur expliquer ce qu'ils vont faire, mais à partir desquels notre vie n'est pas transformée et à partir desquels on n'agit pas. Nous avons besoin d'être rassasiés. Merci Daniel, d'être rassasiés. Rassasiés. Je mâche, je déguste. Vous savez, c'est comme les vins aussi. Tout, il y a une première impression, puis après il y a des choses qui se développent. Moi, je n'ai pas tous les termes. Hein. Moi, je ne suis pas très technique sur les vins, mais j'aime bien le goûter. Mais vous voyez, il y a des choses qui viennent tout de suite, et puis il y a des choses qui viennent après. Moi, j'ai un livre de méditation que je lis depuis 12 ans, qui s'appelle « Tout pour qu'il règne » d'Oswald Chambers. Elle m'a été offerte par une sœur. Eh bien, écoutez, ça fait 12 ans que je le lis. Vous savez, c'est un calendrier permanent. Parce que chaque année, ça me parle nouvellement. Parce que, entre-temps, j'ai fait du chemin. Le Seigneur m'a montré des choses agréables, des choses moins agréables. Quand je relis, je dis « Ah, c'est donc ça qu'il voulait dire. » D'accord. Donc, c'est économique en plus. Hein ? Tous ces textes soulignent la persévérance, la permanence. C'est un gros sujet. Dans le temps du zapping, Dieu est un Dieu persévérant. Un jour est comme mille ans comme un jour. Nous, on aime bien voir les choses expédiées. Ça fait partie de moi, je sais que c'est un de mes problèmes. Des fois, ça me charge parce que ça n'a encore pas bougé. Bah non, mais mon gars, c'est pas toi qui fais. Hein. Bon, ne laissons pas le filtre mensonger que l'ennemi a installé dans nos cœurs, écoutez-moi bien, conduisant à croire que Dieu veut nous dominer, nous écraser, ne laissons pas ce filtre subsister dans nos cœurs, mais accueillons cette parole, parce que c'est ce filtre-là qui fait que nous n'accueillons pas la parole. Ce filtre-là, ça c'est bon pour les autres, c'est pas pour moi, avec ce que j'ai souffert, avec ceci, avec cela, etc., c'est pas possible. Et puis ça, c'est pas juste. Non, la justice des hommes, elle n'est pas juste, elle est comme un vêtement souillé, on le sait bien. Mais lisez la parole, le Seigneur va vous l'expliquer pourquoi. Et lui, il est juste, parce que la justice des hommes, elle veut tout juger en quelque temps, puis elle juge ce qu'elle voit. Lui, il veut juger ce qu'on ne voit pas. Mais lui, il a tous les dossiers. De génération en génération, rien n'est oublié, rien n'était caché à ses yeux. N'oublions pas que Jésus rappelle que pas un, le monde actuel ne disparaîtra pas sans que toute sa parole, au iota près, soit accomplie. Et dans l'Apocalypse, il remet, si on n'avait pas bien compris, il redit, je vais le lire dans Apocalypse, c'est tout à fait vers la fin, Apocalypse 22, verset 19. Alors ça se rapporte à Apocalypse, qui est déjà bien sérieux. « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Et juste au-dessus, il est dit « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Moi, j'ai juste un conseil à nous donner. On va la prendre comme elle est. On va la prendre comme elle est. N'y ajoutons rien. Hein? Ça aussi, c'est dit. Paul, à un moment, dit « Je ne dis pas autre chose que ce que je vous écris là. » Coupant ainsi sous le pied toutes les interprétations fallacieuses, tordues, qui l'accusent, etc. Vous avez remarqué souvent, si vous lisez les lettres de Paul, et c'est l'Esprit qui lui indique ça, c'est comme s'il voyait les réactions de ses interlocuteurs, alors qu'il leur écrit, la lettre va parvenir 3 semaines après, mais c'est comme s'il avait là, l'auditoire sous les yeux, et puis il envoie un qui fronce le sourcil, puis qui fait... Il dit, mais non, bouge pas là, t'es en train de penser ça. C'est extraordinaire, hein, quand vous lisez les lettres de Paul. Est-ce que, parce que nous avons péché, nous allons... La grâce a abondé, alors maintenant on va pécher. Loin de là, c'est comme s'il répondait, il voyait quelqu'un qui disait, oh ben chouette, dis donc, on va pouvoir faire la fête. Toc. Et Paul, il sait, l'Esprit lui montre. L'Esprit lui montre ce qui va se passer. L'Esprit lui montre ce qui va se passer. Alors, prenons la parole comme elle est. On va se rassasier. Alors on dit, ah oui, mais moi, je n'ai pas la révélation. Eh bien, lis-la, demande au Seigneur. Les disciples, ils ne l'avaient pas beaucoup non plus, hein, parce qu'ils avaient eu le maître pendant 3 ans qui leur a expliqué en long, en large, en travers, qu'il allait devoir souffrir de la part des scribes, des pharisiens et des machins, et qu'il allait devoir mourir, et puis qu'il ressusciterait le 3e jour, etc. Il leur a dit qu'il leur disait ça parce que quand ça arriverait, il faudrait qu'ils croient. Il leur a répété. N'empêche que quand il est ressuscité, on a dit ça, c'est des histoires de bonnes femmes, Pierre est allé voir quand même, les autres n'ont pas fait mieux, Emmaüs sont revenus, les autres ne croyaient pas encore, Jésus arrive, ils ne croyaient pas encore, ils sont dans la joie, mais ils ne croient pas encore, et Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il faut, donnez-moi du poisson. Un fantôme, ça mange pas. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il le rappelle, mais il dit, mais je vous ai dit tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il nous aime. Il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors, si vous dites, ben oui, mais moi, ça ne marche pas, je lis, ça ne me fait rien, demande au Seigneur, Seigneur, ouvre mon esprit, que je comprenne les Écritures. Oui, nous avons besoin que le pain soit arrosé avec l'huile. Sauf que l'huile, c'est pas moi, c'est pas nous qui pouvons la donner. Alors, il faut lui demander. C'est lui qui l'a. Par contre, la parole, il nous l'a laissée. Alors ça, on peut faire notre part. De la lire. Parce que s'il voit qu'on s'intéresse à lui, parce que c'est quand même de lui dont il s'agit, je pense qu'il va s'intéresser à nous. De toute façon, il s'intéresse à nous. Alors, voilà pour demeurer dans la parole. Et alors après, il dit quelque chose, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples, en vérité. Alors ça, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qui se passe quand on lit la parole de Dieu avec un cœur bien disposé, un peu labouré, et qui est prêt à se laisser labourer? Parce qu'on croit des fois qu'on a été labouré, mais en fait, c'est que le début. Donc la parole de Dieu, elle travaille, elle est efficace. Vivante, tranchante, pénétrante. Alors elle bosse. C'est une bonne charrue, hein, bien affûtée. Elle ouvre les terrains les plus endurcis. Même s'il y a des cailloux, vous savez, il y a le dispositif comme sur les charrues, hein, ça se relève. Si il y a un gros bloc, ça se relève, il repassera le prochain coup. Hein. Donc elle est pénétrante. Quand on lit la parole, nos difficultés sont révélées. On lit, tiens, ah bah oui, celui-là, il avait le même truc, puis on reconnaît bien quand même. On connaît un petit peu notre vie, on ne se connaît pas complètement, mais il y a des trucs qu'on connaît quand même. Donc quand on lit la parole, ça révèle. Et là, il y a un enjeu. Nous reconnaissons que ce qui est montré est la vérité par l'action de la parole et du Saint-Esprit. Que Dieu soit tout nu pour vrai et l'homme pour menteur. Alors, c'est là que c'est le moment critique, quoi. Si nous obéissons à ce qui nous est montré, si nous reconnaissons, par exemple, un comportement de mépris à l'égard des autres ou de soi-même, parce qu'il y a eu un peu les deux cas de figure, j'en sais rien, la difficulté à rendre compte, je suis dans mon boulot, mon chef, il me gonfle, alors si je peux éviter de lui rendre compte, je suis chrétien, tout ça, mais bon, quand même... la parole, elle nous dit, soyez soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et sympathiques, mais à ceux qui sont difficiles. C'est ça qui fait la différence. Vous voyez, donc, je veux dire, c'est pas très compliqué comme critère à voir où j'en suis, quoi. Mais si j'ai lu cette parole-là, par exemple, je prends ce verset-là, soyez soumis à vos maîtres, donc à vos responsables de service, à votre directeur d'entreprise, j'en sais rien, moi, votre chef de service dans l'administration, hein, des fois un peu rigide, tout ça, bon, eh bien, voilà, le Seigneur nous dit, celui-là, il est sympathique, d'accord, tu obéis, tu n'as pas de mal, celui-là, il n'est pas sympathique, tu vas continuer quand même à obéir. Si on reconnaît, Seigneur, c'est pas possible ça, cette affaire-là, si on reconnaît qu'on accepte la difficulté et qu'on lui demande son aide, notre âme va être purifiée. Là, ça va agir de ces ordures qui entravent notre marche. Parce que dans le fond, ce responsable-là, qui est insupportable, parce qu'il ne nous informe pas assez, parce que ceci, parce que cela, bon, comment je ferai, moi ? Il peut y avoir des choses qui se cachent là-dedans, ma promotion qui n'a pas été assez rapide, bon, machin, enfin, j'en sais rien, hein, moi, un petit moment que je n'ai pas été confronté à ça, enfin, un petit peu quand même, hein. J'étais dans une entreprise, moi, j'aime bien le contact, et à un moment, j'ai dû faire des devis, puis plus aller voir la clientèle. Bon, c'était pas terrible, hein. Mais je vous assure, quand on reconnaît qu'on ne se raconte pas des salades, eh bien, voilà. 1 Pierre 1, verset 22-23 nous explique ça. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère », ça, ça va être sympa. « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été énoncée par l'Évangile. Donc elle est opérante. Mais il y a un moment critique, quoi. Et des fois, si on est bien endurci, on expédie l'affaire vite fait. De toute façon, c'est comme d'habitude. Celui-là, c'est classé. Et on passe à côté. Sauf que, voilà, la parole elle reste. Elle est permanente, vivante. Et puis nous, on a encore raté l'occasion d'être purifié de quelque chose et d'être guéri. Parce qu'on est resté dans notre fonctionnement. Alors attendez, c'est clair, hein ? Faut qu'on se raconte comment ça se passe quand même. Nos cœurs sont humiliés quand c'est comme ça. Mais pas pour nous conduire au désespoir, si ce n'est de tout ce qu'on trouve au fond de nous. Hein ? Vous savez, notre être intérieur... Jésus-Christ qui est venu s'installer, la conquête de Canaan, ce n'est pas faite en un jour. Hein. On est bien d'accord. La conquête de Canaan, c'est cette phase-là de la croissance chrétienne. Ce n'est pas les gros péchés manifestes que le monde voit. Bon, quoi qu'on n'ait plus tellement d'accord dans le monde sur ce qu'est un péché. Hein, l'adultère, la fornication, le vol, c'est pas trop. Il y a l'inceste, quand même, qui reste. Le viol et encore, voilà. Non, non, mais attendez, c'est grave. Hein. Donc, ce n'est pas ces péchés-là. Canaan, c'est tous nos fonctionnements installés depuis des décennies, par des cultures, par l'éducation, par des techniques de management qui ont imprégné toute notre vie, par tout un tas de choses. C'est pas... Ça peut même ne pas être vilain en apparence. Ça peut néanmoins être démoniaque dans le fonctionnement et dans les racines. Alors que les fonctionnements démoniaques soient cravatés en Europe ou pas, c'est quand même c'est le même auteur hein, qui a installé toutes ces choses-là. Vous me suivez ou... Bon, ok. Donc, oui, nos cœurs vont être humiliés. Mais Proverbe nous dit que avant d'être humilié, je m'égarais. Ben, moi, je crois que ça vaut le coup d'être humilié pour être sur la voie de la liberté, quoi. Quand nous constatons ces choses, quand nous sommes à ce moment critique, j'accepte ou j'accepte pas ce qu'est en train de me raconter le Seigneur, là, prions. Prions le Seigneur. Seigneur, viens faire le travail nécessaire, comme tu l'as promis. Puisqu'il a promis que ce qu'il a commencé en nous, par le salut, il le conduirait à la perfection. Donc on peut au moins s'appuyer sur ce verset pour dire, Seigneur, tu as commencé, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît ? Moi, je suis d'accord. Et à ce moment-là, si on fait cette prière, il déclare, c'est moi, effectivement, qui le ferai. Seulement, présente-toi à moi. Va pas te planquer, j'y reviendrai avec ta feuille de figuier, hein ? Donc c'est intéressant ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est qu'ainsi nous progressons dans la communion fraternelle. Parce qu'il va y avoir des demandes de pardon, des reconnaissances devant un frère de nos limites. Eh ben ouais, là, ce truc-là, bah ouais. franchement, je pensais que ça allait marcher, ou j'étais l'homme de la situation. Mais c'est pas grave. Voilà ce que je vous donne là, c'est la description d'un parfait disciple. Et non d'un disciple parfait. C'est pas pareil, hein. Si vous demeurez, c'est-à-dire si vous acceptez ma parole et ce qu'elle dévoile, sans fuir, sans vous cacher derrière la feuille de figuier. Je rappelle que Adam et Ève, quand ils ont fauté, ils se sont cachés derrière une feuille de figuier. Qu'a fait le Seigneur, lui ? Il leur a donné une peau. C'est-à-dire que la feuille de figuier, c'est la propre protection de l'homme qui cache sa misère. Le Seigneur nous dit, c'est pas ça qui marche. C'est le sang de mon fils, le sang d'agneau, qui purifie. Et là, tu vas être tranquille ce coup-ci. Donc, ne cherchons pas à fuir. Quand il nous montre, ne cherchons pas à fuir. Il déclare donc que c'est ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Il ne dit pas « vous êtes vraiment », il dit « vous êtes vraiment tout de suite ». Dès que vous acceptez de demeurer dans ma parole et de travailler avec elle, vous êtes des disciples. Vous n'êtes pas des disciples parfaits, mais vous êtes de parfaits disciples qui acceptent d'être pris et ils sont en marche. Donc ils vont être nettoyés. C'est bon, le processus de transformation est en route. Soyons de parfaits disciples. Parce que j'entends dire, ah ouais, bon, on est des hommes, on n'est pas parfaits, etc. Ce n'est pas acceptable devant Dieu. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. Puisqu'il nous donne les moyens pour la marche initiale et pour la transformation. Le comportement, notre comportement ne va pas être parfait tout de suite. Mais ce que regarde le Seigneur, c'est est-ce que notre cœur est ouvert à la transformation. C'est ça qu'il veut. Alors, il nous est dit ensuite que vous connaîtrez la vérité. On est bien d'accord. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, le processus de transformation va vous conduire dans la vérité. Alors c'est intéressant, les fruits de la vérité, je voulais parler un petit peu de ça. On est d'accord, la vérité, ce n'est pas un concept ou une théorie qui serait plus vraie que les autres et que nous posséderions alors que les autres ne l'auraient pas. Ce n'est pas ça. Ça, j'entends ça souvent. Je reconnais, moi, au début, même les gens m'ont dit ça. Mais attends, tu crois que tu as la vérité ? Tu te prends pour qui ? Bon, c'est sûr que des fois, le témoignage au début de la conversion, ça bouillonne un peu. Hein. Je reconnais que ça a dû être assonné un peu comme ça. Vous n'avez rien compris ? Bon, d'accord. Seigneur, pardon. Ceci étant, attention, hein, que l'ennemi ne lui fasse pas tout rentrer, puis on ne dit plus rien. Parce que la vérité, c'est quand même la vérité. Hein. Mais vous voyez, si on pense qu'on possède une vérité là comme un concept, c'est le problème de Pilate, quoi. C'est cette approche, une approche philosophique qui conduit à un relativisme mortel. Qu'est-ce que la vérité, Pilate ? Le désabusé, qui a tout vu, qui a tout trafiqué dans toute sa vie, qui a fait tous les compromis possibles et imaginables, alors c'est sûr que la vérité, il sait bien en tout cas qu'il ne l'a jamais pratiquée. Mais il se trompe. C'est-à-dire que lui n'a pas pratiqué la vérité, ça ne veut pas dire que la vérité n'existe pas. Il l'avait en face de lui, la vérité, Pilate. Il avait Jésus, là, à ses pieds. Enchaîné, bafoué, mais vrai. Donc cette espèce de doute philosophique, il ne sauve pas, hein. Il ne règle pas le problème. Et il n'enlève pas la responsabilité de l'homme. Jésus est la vérité par ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il est, entièrement aligné sur la pensée du Père. Le Dieu créateur de toutes choses, le bienheureux, le miséricordieux. Juste, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, entièrement tourné vers le bien. La vérité n'est pas un concept exact, c'est le plan de Dieu sorti du cœur du Père. C'est pas une opinion, la vérité. C'est pas même une chose factuelle. C'est l'amour du Père, la vérité, manifestée dans le Fils. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils lui-même, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait lui-même la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà ce qu'est la vérité. Voilà Jésus-Christ, la vérité. Voilà la vérité, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement une théorie qu'on pourrait énoncer par quelques phrases. C'est cette vie donnée. Ma vie, c'est, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est ça, la vérité. La vérité, elle est en Jésus, nous dit Éphésiens 2, et nous ne pouvons accepter l'un sans l'autre. Nous ne pouvons pas prendre ce livre et dire « je suis d'accord avec ça, je suis un adepte de ça » et ne pas recevoir ce que Jésus veut dire, ne pas recevoir Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, je vais vous dire une chose, ce livre-là, si le cœur n'est pas touché, ce livre-là devient mensonge pour la personne. Si je n'accepte pas d'être travaillé, et que, à la limite, j'assène ou j'enseigne les autres à tout bout de champ pour n'importe tout et n'importe quoi, ce n'est plus la vérité. Parce que la vérité, elle est dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La vérité, elle a deux fruits. Et je crois que ça a été rappelé tout à l'heure aussi dans cette parabole du festin, dans cette annonce du festin. La justice et la sanctification. Éphésiens 2. Allons voir un peu Éphésiens 2. Vous savez, j'ai pris une résolution en 2015. J'ai changé ma Bible. C'est difficile, ça. Parce qu'il y avait plein de petites annotations. Voilà. On va lire, tenez, dans Éphésiens 4, on va lire du verset 17 au verset 24. Éphésiens 4, verset 17 à 24. « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous savez pourquoi ? Ça nous est dit dans Romains. Hein ? Parce qu'ils n'ont pas rendu gloire à Dieu. Dieu les a livrés à leur intelligence obscurcie. Ils sont étrangers. Je fais une parenthèse, bon. Une de mes filles qui n'est pas convertie, qui est une grande lectrice, qui résonne, qui est très une battante, etc. Et elle s'intéresse beaucoup à ce que je vis depuis une douzaine d'années. C'est elle qui dit, vous savez, je sais que quand on sait, on ne pourra plus ne pas savoir, mais pour l'instant, elle ne veut pas tout savoir, quoi. Hein, parce qu'elle sait que quand elle saura, elle ne pourra plus ne pas savoir. Alors elle essaye quand même chaque année de m'offrir de tout son cœur un livre. Alors là, vous savez ce qu'elle m'a offert ? Oh ben je le dis, hein. Sur les épaules de Darwin, c'est une espèce d'émission de radio. Bon, alors je dis, bon, ça commence à tourner à la provoque, cette affaire. Puis ce matin, je regardais le titre du bouquin. Je dis, mais j'ai mieux, moi je suis assis avec le Seigneur dans les lieux célestes. On voit encore bien mieux que sur les épaules de Darwin, hein, ou encore bien plus loin. Bon, enfin, je rigole comme ça, faut quand même que... Je ne sais pas ce que je vais faire de ce livre. Si je vais lui lire, la noter et lui retourner, je ne sais pas, on va voir ça. Hein. On lit Éphésiens 4, voici donc ce que je dis, voilà. Selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu, là c'est une description importante, hein, des conséquences, hein. Si on ne reçoit pas, ça s'endurcit. On ne peut pas dire, ben pour l'instant, je reste comme ça, puis je verrai ça plus tard. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Parce qu'il n'y a pas de situation stable avec le Seigneur. Ou on va vers la vie, ou on va vers la mort. Il n'y a pas de situation stable. Ça, c'est encore une ruse et un mensonge de l'ennemi. Si on ne croit pas aujourd'hui, notre cœur s'endurcit. C'est comme ça. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc c'est bien en Jésus qui est la vérité, c'est le siège de la vérité, et sa parole, elle est indissociable de lui, puisqu'il est la parole de Dieu, et c'est bien cette parole qui nous décape, qui nous dépouille, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est tout ce que je vous ai dit ce matin, hein, j'aurais pu lire que ça, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, si on fait la phrase autrement, la vérité a au moins deux fruits, il y en a bien d'autres, mais la justice et la sainteté. Il n'a pas dit la vérité produit la justice ou la vérité produit la sainteté, produit les deux en même temps. C'est ce que nous a rappelé Daniel dans le texte qu'il a choisi. La justice, la justification et la sanctification sont indissociables. Si quelqu'un dit « je suis sauvé, je suis justifié » et qu'on ne voit pas de changement ou de progrès dans la sanctification, il y a un problème. J'allais dire, il y a un problème vital. Le diagnostic vital est engagé. Puisque la vérité, la parole de Dieu, opère sur les deux plans. Je dirais même qu'elle nous justifie, et cette justification va nous permettre de marcher dans la sanctification d'une manière de plus en plus libre. Seigneur, elle nous permet de voir les choses qui ne vont pas et de dire, Seigneur, amen. Elle nous sort de la culpabilité et nous permet d'avancer dans la sanctification. La justification, Dieu nous justifie, il nous dit, je sais, mais maintenant tu as reconnu, c'est le passeport, hein, c'est le passeport, l'invitation pour rentrer. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié de tous mes péchés. Et le sang de Jésus-Christ me purifie, continue. C'est sur cette base-là que j'avance dans la sanctification. Mais ce n'est pas un trophée qu'on a, je suis justifié, j'ai été sauvé, et pourquoi ? Mon destin, c'est effectivement les noces de l'agneau et c'est les demeures avec le Père. On parle aussi beaucoup d'unité sur la base de Jean 17, mais Jean 17 nous dit aussi la prière de Jésus à son Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc on peut faire l'unité, mais si on la fait sur une autre base ou si en enlevant la moitié de la Bible, eh bien écoutez, ce n'est pas l'unité, en tout cas ce n'est pas celle. On n'a pas le droit de se servir de ce verset pour faire des rassemblements un peu n'importe comment. Si ce n'est pas sur la base de toute la parole de Dieu, ça ne colle pas. Ce n'est pas la peine. Alors la voie de la liberté, la vérité vous affranchira. Si nous la recevons et obéissons à ce qu'elle nous montre, c'est clair que la vérité va nous affranchir. Il reprend un peu plus loin, là j'ai pris les versets 31 et 32, au verset 36, Jésus reprend, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre », faisant l'association complète entre Jésus et sa parole, indissociable. Je crois, comme je vous disais en introduction, que des situations sont parfois devenues inextricables parce que la vérité n'a pas été acceptée. C'est du repli sur des blessures réelles, parfois, supposées. L'accusation de nos pères et mères, oh oui, pécheurs aussi. Mais nous ne sommes pas mieux et nous sommes invités à pardonner tout ce que ces figures d'autorité ont pu faire dans notre vie, à pardonner et plus loin, à demander pardon à Dieu pour ce qui a été fait. Je ne vais pas ici parler du... Chacun est responsable, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais un jour, je crois qu'il faut qu'on parle là-dessus, sur ce qui vient de notre héritage. Soit nous nous révoltons en disant « c'est pas juste », soit nous nous humilions devant Dieu, dit « Seigneur, combien le péché est horrible !» Et je m'humilie pour ceux qui m'ont précédé dans certaines situations. Je vous rappelle que cette position-là, elle est totalement scripturaire. Il y a au moins 3 chapitres, mais plus, dans la Bible, où des hommes qui n'étaient pas responsables se sont humiliés devant Dieu pour ceux qui ont commis des crimes. Daniel, quand il a été déporté à Babylone, avait une quinzaine d'années, il n'avait pas commis l'idolâtrie pendant 400 ans, c'est pas vrai. Et pourtant, c'est de cela dont il demande pardon à Dieu. Esdras, Néhémie, je vous rappelle vraiment, hein, on en parlait là, hier, Esdras 9, c'est facile à retenir, hein, ces trois-là. Vous pouvez lire ces prières d'intercession et de repentance devant Dieu par des hommes qui n'avaient pas commis les méfaits dont ils demandent pardon. Donc je pense à ces situations inextricables. Si c'est le cas dans vos vies, des choses quand même qui traînent depuis des années, on ne va pas s'en sortir en accusant c'est l'autre, c'est ceci, c'est cela. Ça s'appelle, écoutez, c'est clair, ça s'appelle se révolter contre la parole de Dieu. Ça s'appelle se révolter contre la parole de Dieu. Ce n'est pas à ça que nous sommes invités. Mes vœux pour chacun et chacune, ça a été dit, la prière pour le pain et le vin, c'est de croître dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et que le Fils nous affranchisse pour que nous soyons libérés pour le servir vraiment. C'est vraiment mes vœux pour cette année. Mes vœux, c'est aussi que nous soyons, je voudrais vous encourager à lire la parole de Dieu. Alors en famille, moi je n'ai pas de famille, je suis seul, sur groupe. Je pense qu'aussi les groupes de maison, ça peut être aussi ça. Non pas faire des séances d'enseignement de 3 heures, ce n'est pas le but, mais lire la parole de Dieu, confiant qu'elle fait son œuvre dans les cœurs. Et si certains ne savent pas lire, c'est vrai qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si certains ne savent pas lire, eh bien, peut-être l'occasion d'apprendre à lire, ça vous servira à cela, puis à bien d'autres choses. Hein. Il y aura des soutiens scolaires, et je pense que là, il y a des choses importantes. Oui, je dis ces choses, c'est important de savoir lire, et s'il y a tant de problèmes autour de ça, le monde est en train de basculer dans la vidéo, je vous rappelle que le Seigneur, il veut qu'on lise sa parole. Quelque part, il peut y avoir de l'idolâtrie dans trop de vidéos, même autour de la parole de Dieu. J'ai regardé le film Jésus, je regarde des films, ça m'arrive. Mais attention, attention, rien ne remplacera la parole de Dieu lue et entendue dans nos oreilles et descendant dans nos cœurs. Je ne condamne pas, je ne juge pas. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Mais attention quand même. Donc voilà, encouragez à lire cette parole. Je vais inviter l'équipe de louange à prendre un chant et écoutez, voilà, je ne sais pas si j'ai envie de faire un appel quand même sur ces choses-là, bien précises. Si quelqu'un au milieu de nous, il y a un point qui traîne depuis des années. À titre personnel, dans sa vie, un tourment, quelque chose qui le tient. Je voudrais lui dire ce matin, le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est tout puissant pour délivrer. Prends ce matin la voie de la liberté. Je voudrais inviter ceux qui se sentent concernés par ça ce matin, à venir simplement, à prendre la voie de la liberté qui passe par la parole de Dieu. Si tu ne la connais pas, eh bien ça va peut-être être l'occasion de te mettre en route. Et alors la vérité te rendra réellement libre. J'appelle ce matin, pas besoin d'être 50, là aussi prenez position, attendez pas que l'autre vienne. Si une seule personne, eh bien, ce sera pour elle ce matin.